Marie-Yvonne a préparé une carte qu'on enverrait à l'église de Somain aux frères et sœurs pour les remercier. Donc, n'oubliez pas d'aller la voir après pour signer, c'est ça? Enfin, voilà, on peut mettre un mot. Voilà. Donc, merci hein, d'avoir pensé à ça. C'est bien de les remercier. Ils nous ont accueillis avec un très bon repas. Voilà. Dimanche, j'avais dit que ce serait Jean-Alain, mais en fait, je pensais qu'on était au mois d'avril là, et on n'est pas au mois d'avril, on est encore en mars. Donc c'est pour ça que je suis là finalement. Et puisque nous venons d'avoir Pâques, nous allons encore parler de la résurrection de Jésus-Christ, les effets de la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie. En 1 Corinthiens 15, et on peut regarder si vous avez votre Bible, versets 17 à 20, 1 Corinthiens 15, 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et ici, le mot qu'il emploie, prémices, c'est une allusion à la fête de Pâques, la fête des pains sans levain. Dans le Lévitique chapitre 23, il est expliqué comment il fallait célébrer la fête en Israël. Il y avait 7 jours de fête. Pâques, ce n'était pas juste un jour, hein, c'était 7 jours sans levain. Et après le dernier sabbat, il y avait les prémices, la présentation du premier fruit de la moisson devant l'Éternel dans le temple. C'est ce qu'on appelait les prémices. Et si l'on croit que Jésus-Christ est mort le vendredi lorsqu'on sacrifiait les agneaux, il est ressuscité le dimanche, ça c'est certain, le premier jour de la semaine pour les Juifs, et le dimanche, on présentait les prémices devant le Seigneur. Et Christ est ressuscité, hein, et c'est pour ça qu'il y a ce symbole. L'agneau sacrifié, c'est Christ qui meurt. Les prémices, c'est Christ qui est ressuscité et qui est le premier à ressusciter. Il y a des gens qui étaient revenus à la vie, comme Lazare par exemple. Mais le fait de ressusciter en tant qu'homme dans son nouveau corps, Jésus est le premier. À quoi voyait-on qu'il avait un nouveau corps? Non, il rayonnait pas spécialement, non. Au début, il ne voulait pas qu'on le touche. C'est pas exactement ça le terme employé avec Marie. Dans la Bible Second, c'est dit « ne me touche pas ». Mais en fait, le terme grec veut dire « ne t'accroche pas à moi ». Donc, parce que je vais vers mon Père, il dit. Donc, la traduction Second, là, est un petit peu confuse. C'est vraiment l'idée « ne t'accroche pas à moi », le Jésus terrestre, parce que maintenant, je vais devenir le Jésus céleste. Mais quoi d'autre alors? Voilà, alors il disparaissait, il apparaissait. Quoi d'autre? Oui, pasteur. Oui? Voilà, il entrait dans les maisons sans frapper à la porte, c'est-à-dire il n'était pas là et puis pouf, il était là dans la maison. Encore un signe que son corps était différent. On ne le reconnaissait pas, plusieurs personnes ne l'ont pas reconnu. Et c'est à un certain moment, il s'est fait reconnaître. Et donc, son corps n'était pas le même. C'était son corps de gloire, son corps qui allait connaître la gloire dans le ciel. Et c'est ce corps que nous recevrons aussi, un corps glorieux qui est fait pour le ciel. Oui. Alors Paul a vu une grande lumière, effectivement, comme Jean aussi, quand il a vu le Seigneur dans toute sa gloire. Mais c'est quand même un corps, bon, voilà, ressuscité, un corps différent, le corps, le premier à ressusciter des morts. Maintenant, s'il n'est pas ressuscité, pourquoi sommes-nous les plus malheureux de tous les hommes? C'est la mort, il n'y a pas de garantie. On croit en vain, notre foi est vaine. Voilà, le Seigneur a dit qu'il ressusciterait, donc il est menteur. Les apôtres sont des menteurs. Voilà. Il y a beaucoup de religions qui sont basées sur des personnages morts. Le bouddhisme, bien que ce soit une philosophie, c'est devenu une religion en Chine. Bouddha est mort. Son tombeau est visité. Hein, d'ailleurs, ses restes sont éparpillés dans plusieurs endroits qui sont des lieux de pèlerinage. Mahomet a un tombeau. Ce n'est pas très connu, mais il a une tombe. Et les gens viennent au tombeau de Mahomet. Donc il y a des religions où le fondateur est mort. Ça ne dérange pas les gens. Mais nous qui croyons en Jésus, ça nous dérangerait s'il était resté mort. Parce que notre foi serait absolument vaine. Mais on va voir les effets de la résurrection de Christ. La première chose se trouve en Romains 1, verset 2. On va voir un verset à chaque fois. Romains, Paul aux Romains, chapitre 1, versets 2 et 3 et 4. Paul parle de l'Évangile, la bonne nouvelle qui avait été promise auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cet Évangile concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. L'Évangile parle du fils de David qui est né. Donc ça, c'est le Messie, fils de David. Hein. Il est né homme. Et même si le mot qui est employé là n'est pas le mot naître, curieusement, il est devenu fils de David. Je pense que Paul n'a pas mis le mot naître quand il a écrit... pour faire une différence entre nous et Jésus. Nous, on est nés, bon, mais lui, il est né quand même miraculeusement. Il est fils de Dieu, hein, et c'est Dieu qui l'a conçu dans le sein de Marie. Mais il était le fils de David, un homme, Messie, mais il a été déclaré fils de Dieu. Il y a une sorte d'opposition, de complément là. Il est à la fois homme et à la fois Dieu. Mais comment est-il déclaré fils de Dieu ? Par sa résurrection d'entre les morts. Bien sûr, Christ est Dieu, il n'y a pas de problème avec ça, mais s'il était resté dans la mort, on pourrait dire qu'il n'est pas Dieu. Il est un prophète, comme beaucoup disent, il est un homme bon, il est un grand rabbin, il est tout ce que vous voulez, mais pour dire qu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu, il fallait qu'il ressuscite des morts. Et c'est pour ça qu'il dit, il est déclaré fils de Dieu. Pourquoi nous pouvons déclarer ? Aujourd'hui, ça devient plus compliqué de déclarer que Christ est fils de Dieu à cause notamment de l'islam. L'islam qui dit, non, non, Dieu n'a pas de fils, Allah n'a pas de fils, ne dites pas ça, c'est un blasphème. Eh bien, nous voulons déclarer que Jésus est fils de Dieu. Devant eux, dans leur face, pourquoi ? Parce qu'il est ressuscité des morts. Ils ont besoin d'entendre que Christ et ressuscité des morts. Et c'est ça un des effets de la résurrection. Jésus est le premier, le dernier, il est le prince de la vie. Une autre chose, puisque Jésus est vivant, ça nous montre que toutes ses paroles étaient vraies. Par exemple, Luc 24, verset 6. Lorsque les femmes viennent au tombeau le matin, il y a deux hommes, deux anges, qui leur font face près de la tombe. Elles ont peur, et c'est là au verset 5 de Luc 24. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite. » Et elles se souvinrent des paroles. Jésus avait annoncé qu'il allait être arrêté, crucifié et qu'il ressusciterait. S'il n'était pas ressuscité, il serait un menteur et il ne serait même pas un prophète. Il ne faudrait même pas croire en lui ni le suivre. Il serait un menteur ou un échec, hein, il aurait absolument failli dans tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Mais le fait qu'il soit ressuscité, toutes ces paroles et toutes ces prophéties vont s'accomplir, parce que ressusciter, c'est un miracle absolu. Et donc, nous pouvons nous confier dans les paroles de Christ. Il a parlé du jugement à venir. Il a parlé de son retour, qu'il reviendrait nous chercher. Vous savez que les chrétiens, à un certain moment dans l'histoire de l'Église, ont été découragés d'attendre le Seigneur. Les premiers chrétiens, quand vous lisez le Nouveau Testament, ils attendaient le retour de Christ. Oh, il va venir, ils étaient presque d'une minute à l'autre. Et puis les années, les persécutions, le temps, l'Église qui s'installe et les conforts et tout ça. Et ils ont oublié et ils n'attendaient plus Christ. Ils ont dit, c'est nous, en installant l'Église, en convertissant le monde, nous allons faire venir Jésus-Christ. Bien sûr, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas le message de l'Évangile. On n'est pas là pour convertir le monde pour que Christ vienne. Surtout qu'ils n'ont pas cherché à convertir par l'Évangile, ils ont converti par la force. L'Église de Rome a converti des milliers de païens par la force. Je me souviens, quand on racontait toujours à l'école la conversion de Clovis et de ses soldats. Donc Clovis est devenu chrétien, c'était le premier roi des Francs. Et tous ses soldats étaient derrière lui. Il a dit, faites-vous tous baptiser. Celui qui refuse, il est tué sur place. Bon, ben voilà les conversions qu'on a eues dans l'histoire. J'appelle pas ça une conversion, moi. J'appelle ça de la coercition, mais pas de la conversion. Mais aujourd'hui, nous voulons retrouver cette attente du Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il reviendra, alors nous devons l'attendre. Parce qu'il est ressuscité comme il l'a dit et il reviendra comme il l'a dit. Il tient parole à tous les coups. Si Christ est vraiment ressuscité, et nous croyons qu'il est ressuscité, puisqu'il est vivant maintenant, nous n'avons plus besoin d'intermédiaire entre nous et Dieu. Hébreux 7. Un des effets de la résurrection de Christ, c'est qu'il n'y a plus besoin de prêtre, de sacerdoce. Hébreux 7. À partir du verset 23, « De plus, il y a eu des prêtres en grand nombre, des sacrificateurs, comme vous voulez, parce que la mort les empêchait d'être permanents. » C'est-à-dire, les sacrificateurs étaient de père en fils. Dans les Lévites, les descendants d'Aaron, ils mouraient, puis leur fils prenait la suite. « Mais lui, Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » Vous savez que cette vérité, ça a bouleversé les gens au temps du XVIe siècle. Quand ils ont commencé à découvrir la Bible, les habitants de l'Europe, à travers l'influence des traducteurs de la Bible, parce que la Bible était en latin pendant des siècles, mais quand on a commencé à la traduire, les gens l'ont lue, et en la lisant avec l'imprimerie qui est apparue aussi au XVIe siècle, Ils sont tombés sur des versets comme ça. Ils ont dit, mais alors, le sacerdoce, c'est Christ. Le prêtre, c'est Christ. Et il peut me sauver parfaitement. Je n'ai plus besoin d'aller demander pardon au prêtre. Je n'ai plus besoin d'un sacrifice à l'église. De l'autel, de l'hostie. Vous savez, hostie, ça veut dire sacrifice. Nous ne prenons pas l'hostie. Il n'y a pas d'hostie dans le repas du Seigneur. Dans le repas du Seigneur, il y a du pain. Le pain qui est donné. Mais l'hostie, c'est vraiment le sacrifice. Et l'Épître aux Hébreux a dit à plusieurs reprises, il s'est sacrifié une fois pour toutes. C'est terminé. Et maintenant, notre foi se repose dans ce sacrifice fait il y a 2000 ans sur cette croix et sur sa résurrection. On peut savoir qu'il peut nous sauver parfaitement. J'aime bien cette expression. Je suis parfaitement sauvé. Est-ce que vous êtes sauvé parfaitement ce soir? Ou est-ce que vous êtes à moitié sauvé? Est-ce que vous êtes en train d'être sauvé? On est sauvé ou on n'est pas sauvé? On est perdu ou on est sauvé? On est mort ou on est vivant? On a la vie éternelle ou on est en route vers l'enfer? Il n'y a pas de... Voilà. Mais quand j'étais... Avant, dans l'église, quand j'étais jeune, on me disait, tu travailles à ton salut. Tu dois faire des œuvres, tu dois aller à l'église, tu dois aller à la messe, tu dois faire des choses pour... gagner ton ciel. Et là, quand je lis dans l'Écriture, nous sommes sauvés parfaitement par Christ parce qu'il est toujours vivant. C'est-à-dire Quand je pêche, je viens au Seigneur, je dis pardonne-moi, et son sacrifice est là, il intercède pour moi par son sang hein, qui a coulé une fois pour toutes. Le pasteur n'est pas un prêtre, le pasteur n'est pas un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et dans certaines églises évangéliques, il y a cette sorte de croyance qui vient d'ailleurs du paganisme et de l'animisme africain, que il y a dans l'animisme hein, le chaman est l'intermédiaire entre les esprits et les hommes. Et le sorcier aussi, hein, chaman, sorcier. Et donc, on demande aux sorciers de faire cet intermédiaire et d'apaiser les esprits par toutes sortes de sacrifices et de transes, etc. Et certains voient le pasteur comme ça, une sorte de sorcier chrétien qui fait l'intermédiaire entre Christ ou entre Dieu et nous. Et donc, tout repose sur le pasteur et c'est une sorte de super pasteur qui a tous les dons du Saint-Esprit, etc., qui guérit les gens. Ce n'est pas ça dans les Écritures. Dans Éphésiens 4, il dit hein, les pasteurs, docteurs, évangélistes, ils forment les chrétiens pour leur ministère, parce que les chrétiens ont un ministère aussi. Mais il n'est pas un intermédiaire. Nous n'avons qu'un seul médiateur, dit la Bible, c'est qui ? Jésus-Christ, homme. Puisque Christ est vivant, il est ressuscité, nous sommes certains aussi de ressusciter. Romains 8, verset 11. Paul aux Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. En d'autres termes, si j'ai reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, cet Esprit me ressuscitera après ma mort. C'est une certitude. De la même façon qu'il a ressuscité le Seigneur Jésus, il me ressuscitera aussi. La question c'est, est-ce que nous avons l'Esprit de Christ ? Dans le même passage, hein, verset 9, il dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais vous vivez selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et j'aime dans ce verset parce que l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, c'est pareil. Christ est Dieu, son esprit, voilà. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour être sauvé, il ne faut pas juste avoir une croyance intellectuelle. Dire oui, je crois au credo, oui, je pense que. Non, il faut avoir reçu Jésus-Christ, reçu son esprit. C'est Jean dans son chapitre 1, dans l'évangile, il dit vous avez cru et vous avez reçu la parole, hein, la lumière qui fait de vous un enfant de Dieu. Comment reçoit-on le Saint-Esprit ? Mais c'est quand on vient au Seigneur, on dit Seigneur, je suis pécheur, je suis coupable, mais je te demande pardon, je crois que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité, et je te reçois dans ma vie. Je veux que tu viennes appliquer ton pardon dans ma vie, dans mon cœur, que tu viennes laver mon âme, ma conscience. Pas simplement que tu sois dans ma Bible, dans ma bibliothèque, que tu sois une croix dans ma chambre, mais que tu sois dans mon cœur. C'est ça qui change tout. Entre une religion et la foi chrétienne. La religion, c'est une philosophie de vie, c'est une tradition, une culture. La foi, c'est Christ qui habite en vous, son Saint-Esprit, et qui vous ressuscitera. Parce qu'il a ressuscité le Seigneur. C'est dans Jean 11 aussi, hein, il dit, si à propos de la résurrection de Lazare, hein, il dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Hein. Ça, c'est fort. Même s'il meurt, il va continuer à vivre. Pourquoi ? Parce qu'il a l'esprit de Christ. Parce que Christ est ressuscité. Puisque Christ est ressuscité, nous sommes sûrs de notre salut. Romains 4, 25. On a tendance à s'arrêter parfois seulement sur la croix et de négliger la résurrection. Romains 4, 25. Christ, Jésus notre Seigneur, a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est mort, a été livré, il est mort, hein, crucifié, pour payer nos péchés, hein, pour nos offenses. Il a pris nos péchés sur lui, il a payé notre dette sur la croix, il a été frappé par la colère de Dieu sur nos péchés. Mais en ressuscitant, nous sommes acquittés, justifiés, acquittés, pardonnés. S'il était resté mort sur la croix, qu'il n'était pas ressuscité, où seraient nos péchés? Ben sur nous. Ça veut dire qu'il n'aurait pas réussi. Quand Jésus a dit « tout est accompli », il savait qu'il avait réussi. Et quand il savait qu'il allait ressusciter. Parce que si Christ était resté mort, ça veut dire qu'il était pécheur lui-même. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si Christ était resté mort, ça veut dire qu'il était pécheur. Et si Christ est pécheur, il ne peut pas nous sauver. Jésus a fait face à la mort, il est entré dans la mort, il a rendu l'esprit, dit la Bible, hein. Mais la mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il était saint. Il était le seul homme saint. Et sa résurrection a prouvé que son sacrifice a été une victoire. Et donc, si aujourd'hui je sais que je suis sauvé, c'est parce que Christ est ressuscité des morts. C'est ça qui me conforte. Donc il est mort pour mes offenses, mais il est ressuscité pour mon acquittement, mon pardon, ma justification. Maintenant, je suis déclaré juste par la foi en Christ ressuscité. On a tendance à dire, et ça c'est les historiens qui disent ça, que dans l'Église d'Occident, l'Église romaine, on insiste beaucoup sur la croix, les souffrances de la croix. Et dans l'Église orthodoxe, en Orient, on insiste beaucoup sur la résurrection. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne connais pas assez toute l'histoire de ces deux églises, mais Dieu veut qu'on ait les deux. Il ne veut pas qu'on s'arrête sur la croix, il veut qu'on continue avec la résurrection. Et justement, en parlant de résurrection, si Christ est ressuscité, nous avons alors une nouvelle vie dès maintenant. Colossiens chapitre 2, verset 12. Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 12, il dit « Vous avez été ensevelis avec lui, avec Christ, par le baptême, mais vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » Donc ce n'est pas que ma vie passée a été enterrée, coulée, c'est que j'ai une nouvelle vie maintenant. Et là encore, il y a des chrétiens qui restent dans le passé. Ils disent « Ah, je suis pardonné, ma vie passée, voilà. » Oui, mais et maintenant ta nouvelle vie, elle est où? Est-ce que tu vis une vie de ressuscité? Où est-ce qu'elle est ta vie de ressuscité? Tu es sorti de l'eau le jour du baptême. Est-ce que ça témoigne que tu as une nouvelle vie? Il y a des chrétiens, ils ont toujours leur ancienne vie en fait. Hein, ils l'ont un petit peu nettoyée, un peu améliorée, mais il n'y a pas une nouvelle vie. Quand il y a une nouvelle vie, on le voit, il y a des fruits nouveaux. Quels sont les fruits du Saint-Esprit, hein? Il y a un nouvel amour, une nouvelle joie, une nouvelle paix, un amour pour les frères et sœurs qu'on n'a pas avant d'être sauvés. Hein? Avant d'être sauvés, on dit, mais ça ne m'intéresse pas d'aller à l'église où les gens... Mais quand on est sauvé, on veut aller à l'église. Pourquoi on veut aller à l'église? Parce qu'il y a les frères et sœurs, parce qu'il y a le Seigneur qui est là ensemble. Quand on était donc dans l'église de Somain, il y avait... cet homme hein, qui est venu au Seigneur, il était vraiment pas intéressé par l'évangile la première fois qu'il l'a entendu. C'est des chrétiens de l'église qui sont allés parler avec sa femme qui est malade. Et lui, il a assisté. Alors, il assistait de loin, puis il s'en allait, il quittait la pièce, il revenait. Et à un moment, il a dit clairement, ça m'intéresse pas. Et donc, les frères, ils ont pas essayé de pousser. Ils ont dit, bon, bah, ça t'intéresse pas. On prie pour toi et pour ta famille. Et sans que je puisse vous expliquer ce qui s'est passé, ni lui d'ailleurs, il y a une semaine où il a été vraiment convaincu de péché et du vide de sa vie et du besoin du Seigneur. Et le dimanche matin, il s'est levé, il est allé à l'église tout seul. Il était vraiment bouleversé et à la fin, il a prié avec notre frère et nous croyons qu'il a reçu le Seigneur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il dit, moi, j'ai toujours envie d'aller à l'église. Il passerait son temps à l'église. Alors qu'avant, ça ne l'intéressait pas. Ça, c'est quand même la nouvelle vie. Et maintenant, il a un nouvel amour, il a un zèle. Et voilà, il y a un changement qui se passe. Ça, c'est la vie de ressuscité. Dans Philippiens, sans mordre sur les messages de Jean Alain, il dit, hein, Philippiens 3, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, verset 10, ainsi de Philippiens 3, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Vous voyez, il y a la croix et il y a la résurrection. La communion de ses souffrances, c'est-à-dire il souffre pour le Seigneur, pour l'Évangile. Hein, Paul a particulièrement souffert pour l'Évangile. Mais la puissance de sa résurrection, c'est quoi? C'est cette vie impérissable qui triomphe de tout. Elle triomphe du péché dans notre vie. Elle triomphe des tentations, elle triomphe des persécutions même. Les chrétiens qui ont été persécutés dans l'histoire de l'Église, ceux qui avaient cette puissance de résurrection, on n'arrivait pas à les arrêter. Il fallait les éliminer physiquement pour les arrêter. Et même sur le bûcher, ils continuaient à témoigner. Ils disaient, je remercie le Seigneur. Ils citaient un psaume. Ils disaient, je pardonne à mes ennemis. C'est Michael Sattler, hein, cet anabaptiste, qui, ses ennemis ont tellement voulu l'arrêter qu'ils lui ont coupé la langue pour qu'il se taise. Et ils l'ont mis sur un bûcher, mais même sans sa langue, sa mort était un témoignage. Et beaucoup de gens sont venus au Seigneur à la suite de son martyre. La puissance de résurrection, mais je pense maintenant, sans aller jusque-là, pour chacun de nous dans sa vie quotidienne, où est la puissance de la résurrection? Est-ce que je vis comme un ressuscité? Je me mets un peu à la place de Lazare, qui n'est pas, qui est revenu à la vie, hein. Je pense aussi à ceux qui ont connu une expérience de mort imminente. Ils sont d'une certaine façon ressuscités. C'est-à-dire, ils ont dit, c'est ma fin, je suis fini, je meurs. Et puis finalement, ils ont le droit encore des années sur terre. Beaucoup d'entre eux ont une vie différente. Parce qu'ils disent, il m'est donné du temps, il faut que je l'utilise bien. Un exemple qui m'a beaucoup touché, c'est notre frère qui a été en Russie, Louis Pelzer. Louis Pelzer avait cette maladie dégénérative qui le condamnait à mort. Et il avait des crises, donc il ne pouvait plus respirer, il n'avait plus les nerfs et les muscles. Et donc ses poumons étaient remplis de glaire et de choses qui l'étouffaient. Donc il avait des crises régulièrement, il devait aller à l'hôpital en urgence pour qu'on lui enlève, qu'on pompe ses poumons. Et sa femme était à ses côtés, elle s'est dit chaque fois, ça y est, il va y passer. Voilà. Et un jour, donc il a eu une crise grave, il s'est retrouvé à l'hôpital. Il était chrétien déjà. Hein. Et le lendemain matin, il se réveille et il se sent assez bien dans son lit. Il dit, ah, je suis bien. Il se lève, ah, je suis vraiment bien. Oh là. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont donné, mais je me sens en forme. Et il va dans la salle de bain et il se regarde et là, il est stupéfait. Lui qui avait, donc comme il avait une sorte de paralysie à cause de cette maladie, il avait le visage de travers, hein, à cause de la paralysie, il se voit normal. Et il raconte, donc nous on le connaît, hein, et il nous l'a raconté oralement, il a un petit livre aussi qui s'appelle « Des ténèbres à la lumière », hein. Il dit, le Seigneur, dans la nuit, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais il m'a guéri. Il dit, depuis ce jour, j'ai décidé de lui consacrer ma vie. Il dit, il m'a donné du temps. Eh bien, je veux lui consacrer ce temps. Et c'est comme ça qu'il est allé comme missionnaire dans les pays ex-soviétiques pour apporter des médicaments et surtout l'évangile. On a vu un représentant l'autre semaine, hein, qui nous a parlé de cette œuvre. Lui, il a traduit le Vidal en russe. Travail incroyable, il a appris le russe. Là, il avait presque 60 ans, je pense, quand ça lui est arrivé. Infatigable. Bon, maintenant, il commence à vieillir, mais il a une vie de ressuscité. C'est ça la vie de ressuscité, c'est que je vis plus comme avant. Et puis, si Christ est vivant, tout est possible à Dieu. Actes 4, 10. C'est au sujet de cet homme qui avait été guéri miraculeusement par les apôtres, enfin à travers les apôtres, et ça avait causé une persécution, on les avait arrêtés à cause de ça, parce que ça avait fait toute une commotion dans la ville de Jérusalem. Et Pierre dit, 4:10, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Et puis, verset 12, ce beau verset quand même, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a pas d'autre nom que celui de Christ. Et c'est par le nom de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'ils utilisaient le nom comme une sorte de fétiche. Si je fais une prière en disant « Jésus-Christ de Nazareth », il va y avoir des miracles. Ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Chez les Juifs, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ, le nom, c'est la personne, sa vie. C'était une expression juive hein, pour dire la personne. Donc, mais c'est par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que cet homme ressuscité, que cet homme est guéri. Et le fait que Christ ait ressuscité des morts fait que tout est possible à Dieu. Y compris, là, c'était un paralysé hein, qui s'est mis à marcher. Nous attendons du Seigneur de grandes choses. Pas seulement, justement, des guérisons spectaculaires, mais surtout le salut. Parce qu'après, il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Quand quelqu'un se convertit, c'est un miracle extraordinaire. Quand vous voyez sa vie changer, quelqu'un comme ce frère dont j'ai parlé dans le Nord, qui ne s'intéressait pas à Dieu et maintenant il est enflammé, et il a cet amour de Dieu qui coule, cette source, ça c'est le plus grand miracle qui soit. Lorsqu'un pécheur devient un saint, lorsqu'une personne qui est égoïste, orgueilleuse, qui est dans la corruption, devient un saint qui aime, mais c'est extraordinaire. C'est magnifique. Et c'est pour ça qu'on doit prier principalement que Dieu sauve les âmes. Et les pires pécheurs peuvent se tourner vers le Seigneur parce que Christ est ressuscité des morts. Dieu ne veut pas faire des religieux. Dieu ne veut pas faire des bons chrétiens. Dieu veut faire des personnes ressuscitées. Et c'est pour ça que quand nous prêchons l'évangile, eh bien, nous prêchons un évangile de la résurrection. Dans les Actes, il dit « Les apôtres rendaient avec force témoignage de la résurrection. » Parce que lui, eux, ils l'avaient vu ressusciter aussi. Hein, ils pouvaient rendre témoignage. Mais c'est pour dire, c'est un message extraordinaire. Christ est ressuscité. On l'oublie parfois. Hein, on parle de la croix et on oublie de terminer avec la résurrection. Je terminerai justement ce soir avec cette phrase du Seigneur Jésus. Si Christ est vivant, puisque Christ est vivant, il est toujours avec nous. Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. La fin du monde, c'est lorsqu'il reviendra justement, hein, juger le monde. Mais il est avec nous tous les jours, même l'original grec dit presque chaque jour, hein. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur est là. Je n'ai pas à craindre qu'il ne soit pas là. Il est là. Voilà, c'est à moi d'être avec lui, mais lui, il est avec moi. Parce qu'il est vivant. Il est ressuscité. Je n'adore pas un Seigneur, un personnage qui est mort. Oh là là, c'était bien avant quand il était là. Non, il est toujours là. Il est toujours vivant. Il est toujours en action. Il est toujours la tête de l'Église. Il est toujours mon Sauveur vivant. Il intercède pour moi continuellement. Le Seigneur est là et je n'ai rien à craindre. Je peux me réfugier dans son nom, hein, dans la tour forte de son nom. Et il est ressuscité. Alléluia, nous avons un Sauveur vivant. Et nous n'avons pas à craindre la mort. Ô mort, où est ton aiguillon, hein? Où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Et nous pouvons parler à la mort ainsi avec humilité, mais avec foi, de lui parler, de lui dire « Mort, ta victoire ». Elle est perdue. Tu as perdu la guerre parce que Christ est ressuscité. Nous pouvons regarder la mort en face. Et ça, c'est un grand privilège qui nous est donné par cette résurrection de Christ. Je vais chanter pour terminer.